VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous. 13h à Lubumbashi, en RDC. L'opposant congolais historique Étienne Tshisekedi a appelé ses concitoyens à ne plus reconnaître Joseph Kabila comme président de la République démocratique du Congo. Dans une vidéo mise en ligne sur YouTube, dans la nuit de lundi à mardi dernier, jour du mandat du chef de l'État, dernier jour du mandat du chef de l'État, la vidéo n'était pas visible en RDC même, où les autorités ont ordonné, vous le savez, le filtrage depuis dimanche soir de tout contenu, photo ou vidéo sur les réseaux sociaux. On écoute Étienne Tshisekedi.
Monsieur Kabila a décidé de demeurer néanmoins au pouvoir par défi. Force est de constater que M. Joseph Kabila sera ainsi coupable de parjure et a commis une violation intentionnelle de la Constitution de la République constitutive de la haute trahison. En conséquence, à partir de ce 20 décembre 2016, M. Joseph Kabila ne pourra plus à engager la République démocratique du Congo tant à l'extérieur et à l'intérieur du pays. C'est pourquoi je lance un appel solennel d'abord au peuple congolais à ne pas reconnaître l'autorité du reste illégal et illégitime de Joseph Kabila et à résister pacifiquement au coup d'État qui est ainsi accompli avec la bénédiction de la Cour constitutionnelle.
Et le président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, déclare toutefois donner son accord au rassemblement. Large coalition d'opposition formée autour de sa personne a poursuivi les négociations avec le pouvoir lancé le 8 décembre par les évêques catholiques du pays afin de trouver une sortie pacifique à la crise politique qui mine la RDC depuis la réélection contestée de M. Kabila fin 2011. Suspendu samedi soir, c'est pour parler destiné à permettre l'instauration d'un régime de transition politique associant la majorité sortante et l'opposition était censée reprendre demain, mercredi. Par ailleurs, des tirs nourris d'armes à feu ont été entendus ce matin à Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo, où les forces de l'ordre sont largement déployées au dernier jour du mandat du président Joseph Kabila. D'après l'AFP, les tirs ont commencé après 9 heures dans un quartier du sud de cette ville. Signe des affrontements entre des manifestants et la police. Plusieurs pneus brûlés ont été abandonnés sur la chaussée jonchée de pierres. La situation est très tendue en ce moment. Depuis 48 heures, la plupart des grandes villes du pays sont sous la coupe réglée des forces de l'ordre et la population reste massivement chez elle. Et pendant ce temps, le président congolais Joseph Kabila a annoncé dans la nuit de lundi à mardi, quelques heures avant la fin de son mandat, un nouveau gouvernement sans attendre les résultats de la médiation de l'Église catholique visant à sortir la République démocratique du Congo de la crise politique. Thierry Kabondi de Top Congo FM.
C'est une équipe de 67 personnes au total qui compose ce nouveau gouvernement d'union nationale, fruit de l'accord politique sanctionnant le dialogue facilité par le Togolais Edem Kodjo. Trois vice-premiers ministres, dont deux du PPRD, Cheikh Tundu qui revient aux affaires étrangères, Ramazani Shadari qui remplace Evariste Boshab à l'intérieur et l'opposant José Makila au transport. Sept ministres d'État, parmi lesquels Alexis Thambo Mwamba confirmé à la justice, Pierre Kangoudia de l'UNC de Vital Kamerhe ou encore Azarias Rouberoy, l'ancien vice-président de la République nommé à la décentralisation. 34 ministres avec notamment de nombreux opposants signataires de l'accord ayant sanctionné le dialogue de l'Union africaine et 22 vice-ministres. Du gouvernement Matata, on note la reconduction de Lambert Mende Omalanga à la communication et médias, Bahati Lukwebo à l'économie, Henri Yav Moulang aux finances, Martin Kabouloulou aux mines ou encore Thomas Louaka, nouveau ministre des infrastructures. Parmi les entrées remarquables dans ce gouvernement, a signalé celle de Clément Kankoubou Kassa, député de l'opposition, membre du rassemblement mais signataire de l'accord politique, le docteur Loseke, récemment suspendu de ses fonctions à l'UDPS, nommé vice-ministre des Finances, ainsi que le docteur Ilunga, autre proche d'Étienne Tshisekedi, nommé à la santé. Kinshasa, Thierry Kambondi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au Mali, polémique autour du communiqué conjoint sur la migration signée le 11 décembre 2016 entre le gouvernement malien et l'Union européenne. Bamako dit n'avoir rien signé, n'a signé aucun accord en tout cas. Le gouvernement malien s'est expliqué sur ce dossier sensible, sans convaincre pour autant. Écoutez quelques Maliens au micro de notre correspondant Kassim Traoré.
Le communiqué que nous avons eu est une honte pour les gouvernants et une trahison du peuple malien. Qu'est-ce qui amène d'ailleurs ces gens à quitter le Mali? C'est le désespoir. Le gouvernement n'a absolument rien fait pour donner l'espoir à ces jeunes, à tous ceux qui se sont retrouvés aujourd'hui en Europe, de rester au Mali.
Si le Mali s'est engagé à cette signature, je pense que c'est une dérive nationale. Il y a tellement de Maliens à l'extérieur qu'on ne peut pas imaginer. Il revient maintenant au président de la République lui-même d'expliquer correctement à son peuple ce qui s'est passé réellement avec l'Union européenne en matière d'immigration.
Retour sur l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. 3 ans après, l'épidémie qui s'est propagée en Afrique de l'Ouest de fin 2013 à 2016 était la plus grave jamais enregistrée depuis que le virus Ebola a été identifié en 1976. Plus de 28 000 personnes ont été contaminées, quasi exclusivement en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Plus de 11 000 ont trouvé la mort selon l'Organisation mondiale de la santé. Comment vivent les survivants? Où en est la recherche scientifique? Comment éviter le retour de l'épidémie? Zakaria Camara s'est rendu à Gekedou pour voir comment le personnel soignant travail et les mesures de prévention de précaution prises.
Après le passage de l'épidémie d'Ebola en Guinée, la prudence semble la règle de conduite dans les services sanitaires. Aoumadi Kamara, surveillant général à l'hôpital préfectoral de Gekedou.
Je pense plus que la même situation se répète au staff matinal. Nous avons désigné des agents qui contrôlent dans les différents services comment l'hygiène est appliquée.
Fini la surprise, même son de cloche à Kissoudougou, Fassiné Camara, surveillant général de l'hôpital préfectoral.
Il faut le reconnaître maintenant que ça ne sera plus une surprise pour le personnel. Parce que chacun de nous est édifié, chacun de nous est informé, chacun de nous connaît ce qu'il faut faire. Bien sûr qu'on dit que Ebola est fini, mais pour le personnel, Ebola existe. Donc il faut toujours être dans les mesures de sécurité pour éviter une surprise désagréable.
Dans une salle de consultation, Karim Bangoura, médecin gynécologue, explique comment il se protège.
Depuis que la maladie là est venue chez nous, moi personnellement, je ne touche plus à une personne sans que je ne sois vraiment dans les normes. C'est-à-dire qu'il faut que mes mains soient gantées, il faut que j'ai une solution de désinfectant à côté.
Avec un bilan macabre de plus de 2000 décès et malgré la déclaration de la fin de l'épidémie, l'OMS et ses partenaires, y compris les autorités guinéennes, recommandent la vigilance. Du retour de Gekedou, de Kissoudougou, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Haïti, le tribunal électoral a ordonné la vérification de procès-verbaux de la présidentielle qui s'est tenue le 20 novembre et pour laquelle la victoire au premier tour de Jovenel Moïse, selon les résultats préliminaires, est contestée par ses 3 principaux opposants. Il revient au Conseil électoral provisoire d'annoncer les résultats définitifs du premier tour de la présidentielle. Selon le calendrier initial, cette annonce est prévue pour le 29 décembre, mais le travail d'analyse des documents au centre de dépouillement ordonné mardi par ce tribunal pourrait la différer. La police turque a arrêté 6 personnes après l'assassinat de l'ambassadeur de Russie, abattu d'une balle dans le dos alors qu'il prononçait un discours lundi dans une galerie d'art d'Ankara. Le tireur qui criait « N'oubliez pas Alep » et Dieu est plus grand a été neutralisé par les forces spéciales turques. Selon la police, il s'agit d'un policier travaillant à Ankara qui n'était pas en service. La police patrouillait aujourd'hui devant la galerie d'art dont l'accès était interdit. L'ambassade des États-Unis à Ankara a annoncé pour sa part qu'elle restait fermée aujourd'hui, ainsi que ses consulats à Istanbul et Adana après des coups de feu tirés devant l'ambassade en tout début de soirée. De journée. Et puis la chancelière allemande Angela Merkel a qualifié aujourd'hui d'attentat terroriste l'attaque au camion Bélier la veille sur un marché de Noël de Berlin. Madame Merkel, qui s'est dit horrifiée, choquée et très triste, a ainsi confirmé implicitement que le suspect arrêté la veille, peu après les faits, était un demandeur d'asile. Selon des médias allemands, il serait pakistanais ou afghan et serait arrivé en Allemagne cette année. Madame Merkel a par ailleurs indiqué qu'elle se rendrait dans l'après-midi sur les lieux de l'attaque. Un marché de Noël au pied de l'un des monuments les plus célèbres de Berlin. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes. Il vous sera présenté par Harry Francisque. Pour ma part, je vous dis bon après-midi sur le continent et à bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.